micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
On se retrouve dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'accession à la propriété pour les foyers modestes. Quels sont les freins? Quels sont les risques? La crise financière rend-elle encore plus compliqué et risqué ce projet que de nombreux Français nourrissent? Quels sont enfin, en termes de politique publique, les moyens de favoriser l'acquisition d'un logement pour le plus grand nombre? Nous nous demanderons enfin quelle est l'efficacité du médiatique, mais assez peu répandu, et c'est peu de le dire, dispositif de la maison à 15 euros. Nous irons donc en fin d'émission à la rencontre d'un maire qui se retrouve bien malgré lui obligé de mettre en œuvre un de ces dispositifs dont il a hérité lors des dernières élections municipales. Nous sommes évidemment toujours en compagnie d'Isabelle Coutant, sociologue au CNRS et co-auteur de La France des petits moyens. Enquête sur la banlieue pavillonnaire, c'est aux éditions La Découverte. Avec nous toujours Bernard Worms, directeur général de l'Agence nationale d'information sur le logement, l'ANIL. Mais pour se remettre dans le bain après les infos du monde, je vous propose d'écouter le point de vue d'Alain Tourgeman. Il est directeur des études et de la prospective à la Caisse nationale des caisses d'épargne. Il vient de coordonner l'Observatoire de la Caisse d'épargne, qui est un rapport d'analyse consacré cette année au logement. Et comme il l'explique au micro d'Aline Leclerc, c'est en termes d'enjeux de société qu'il faut traiter, selon lui, la question de l'accession à la propriété.
Microscopie, la société au microscope.
Aujourd'hui, nous vivons avant tout une crise de l'accessibilité, c'est-à-dire que les Français se sont trouvés de plus en plus éloignés du type de logement auquel ils pouvaient aspirer dans le cas où ils font un maximum de concessions dans leur acte d'achat. En moyenne, pour un ménage moyen, un logement moyen valait 2,5 années de son revenu. Et ça a été valable pendant à peu près 35 ans, de 1965 à 2000. On est passé en très peu d'années, de 2000 à 2005, à plus de 4 années de revenus. Donc on a connu, non pas une augmentation des prix, mais un vrai changement d'échelle, un vrai changement de régime des prix, qui a fait que l'accession à la propriété est devenue beaucoup plus difficile et s'est traduite notamment par un nombre de phénomènes, par exemple l'allongement des crédits qu'on a pu voir.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus difficile de devenir propriétaire?
Alors, ce qui a changé fondamentalement, c'est que les prix ont augmenté considérablement plus vite que les revenus, alors que sur moyenne longue période, les prix augmentaient finalement, une fois les cycles passés, à peu près au même rythme que les revenus. Donc c'est la croissance beaucoup plus forte des prix par rapport aux revenus qui explique cette difficulté. Elle a été en partie compensée par le fait que les taux d'intérêt, en particulier en France, ont baissé considérablement. Mais néanmoins, la très forte montée des prix finit par rendre très difficile et de plus en plus difficile l'accession à la propriété.
Est-ce que ça crée, au niveau de la France, un accroissement des disparités?
Oui, je crois que c'est l'un des changements importants que nous vivons aujourd'hui sur l'immobilier. On le voit bien dans les enquêtes faites par l'INSEE sur le patrimoine entre 98 ou 92 et 2004. Le logement était assez peu un facteur de disparité et d'inégalité patrimoniale dans les années 90. C'est devenu un facteur important d'inégalité patrimoniale du fait de l'augmentation des prix. Aujourd'hui, disposer d'un patrimoine, c'est extrêmement important parce que c'est le moyen par lequel on assure son autonomie future. Dans une société où il y a plutôt moins de prévoyance collective qu'auparavant, il faut de plus en plus disposer d'un patrimoine. Le moyen essentiel de disposer d'un patrimoine, c'est le logement. Et donc, ne pas avoir accès à la propriété, c'est d'une certaine façon barrer certaines personnes de l'accès au patrimoine et donc de l'accès à une autonomie financière future. Et là, il me semble qu'il y a un sujet, parce que le logement, depuis 50 ans, c'était vraiment l'instrument par lequel les Français accédaient au fait de pouvoir disposer d'un patrimoine et que quasiment n'importe qui, en tout cas la plus grande partie des populations, pouvait avoir accès à la propriété. Et là, nous rentrons sur un sujet qui est vraiment un sujet de société.
Bernard Worms, c'est quoi une politique du logement? Est-ce que c'est une politique qui a vocation à permettre à chacun et à tous de devenir propriétaire, ou est-ce que c'est une illusion?
Non, mais d'ailleurs, la politique du logement en France, sous les différents gouvernements, a mis plus ou moins l'accent sur l'accession à la propriété, mais ce qui la caractérisait par rapport aux États-Unis, par exemple, c'était justement ce concept de libre choix. Et la politique du logement aide à construire des logements sociaux, elle favorise aussi l'investissement locatif, donc pour les personnes privées qui investissent dans le logement pour le louer, et elle favorise l'accession à la propriété. Non, l'objet de la politique du logement, c'est un peu un truisme, c'est de permettre à tout le monde de se loger dans des conditions décentes. Alors, de plus, incontestablement, comme dans la grande partie, une grande majorité des pays, il y a un encouragement à l'accession à la propriété. Et ce que disait Alain Torgemann sur la préoccupation de retraite, c'est incontestable. Actuellement, les pouvoirs publics se disent il vaudrait mieux que les Français, quand ils prendront leur retraite, soient propriétaires, parce que c'est un patrimoine qu'ils auront peut-être d'ailleurs à consommer pour compenser la baisse des retraites.
Isabelle Coutant, Alain Torgemann insiste sur justement ce creusement des disparités. Est-ce que vous avez remarqué dans cette enquête sur la banlieue pavillonnaire, que vous décrivez comme un entre-deux justement, une volonté de se protéger, cette peur de la contagion par le bas, vous dites en fait?
Oui, sur les générations récentes, et beaucoup autour de l'idée de... Enfin, ça se cristallise beaucoup sur la question des enfants.
Ce qui veut dire que le mythe, le programme de la mixité sociale, enfin l'idée de la mixité sociale est en soi une chimère.
Ça dépend après ce qu'on entend par mixité sociale, parce que finalement cette banlieue-là, elle est quand même relativement mixte socialement. Je veux dire, les quartiers pavillonnaires jouxtent vraiment les quartiers HLM, les enfants fréquentent les mêmes établissements scolaires, ce qui d'ailleurs pose certains problèmes pour certains parents. Même le quartier pavillonnaire qu'on a étudié, il est relativement hétérogène en réalité socialement, notamment parce que justement c'est à la fois un lieu de promotion, un lieu de passage, c'est-à-dire que ceux qui peuvent poursuivre des trajectoires d'ascension après veulent accéder à une vraie maison, un vrai pavillon, sachant que dans ce quartier-là il y a beaucoup de pavillons mitoyens, hein, donc une vraie maison, c'est une maison dont on peut faire le tour
avec un jardin,
avec un voilà. Donc une partie des habitants partent, sont remplacés par d'autres, et ce qui s'est passé dans ce quartier-là, c'est qu'il y a eu un afflux massif de familles immigrées. Originaires de Turquie qui ont accédé, donc famille très nombreuse, des enfants aident les parents à prendre des crédits, et puis bon, elles ont pu accéder aussi à un moment où les prix avaient baissé. Tout ce monde-là cohabite, hein, c'est aussi un quartier relativement hétérogène sur le plan des origines ethniques, donc ce sont quand même des... Enfin, il y a de la mixité, il y a de l'hétérogénéité.
Mais c'est aussi, enfin, vous décrivez quand même cette peur d'être rattrapé par le stade d'en dessous, notamment par rapport à l'école.
Il y a une peur que les enfants ne puissent pas réussir à l'école, c'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui doivent leur ascension sociale à l'école. Et donc là, les angoisses se cristallisent sur l'idée que les enfants vont... Il n'y a rien d'autre à leur transmettre que ça, bon, éventuellement la maison, mais enfin, l'idée c'est est-ce qu'ils vont même pouvoir reproduire ce qu'on a fait nous. Et donc c'est pour ça que ça se cristallise beaucoup sur les enjeux scolaires.
Éducatifs, notamment donc, le recours à l'école privée.
Voilà, donc l'angoisse que les questions de délinquance, que les mauvaises fréquentations envahissent aussi le quartier, le collège, c'est un petit peu ça. Mais c'est justement parce qu'il y a une mixité sociale et que c'est proche des cités.
Bernard Worms, est-ce qu'il y a, on dit souvent quand on parle du chômage qu'il y a un nombre incompressible de chômeurs, en gros entre 4 et 5%. Est-ce qu'il y a une part de la population maximum de propriétaires dans un pays ?
Il n'y a pas de chiffre absolu, mais il est certain que la situation de l'Espagne, par exemple...
85% de propriétaires.
À 85% de propriétaires désole les Espagnols, parce que ça se traduit par les faits que les enfants restent sur leurs parents jusqu'à un âge extrêmement avancé. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de l'ambiance dans les rues à Madrid. Mais il n'y a aucune mobilité possible, et les jeunes deviennent indépendants très tard. Alors, est-ce qu'il y a un taux maximum ? Non, je ne crois pas, mais il est certain qu'on a besoin d'un parc locatif, ne serait-ce que soit pour les gens qui bougent, soit pour les jeunes, parce qu'on ne devient pas immédiatement propriétaire quand on part de chez ses parents.
À qui profitent les politiques du logement ?
Pour répondre à votre question, je crois que là, il faudrait regarder les choses avec un œil froid et dur, et prendre les statistiques de l'INSEE. Qu'est-ce qu'on constaterait ? C'est que sur les 30 dernières années, les conditions de logement des Français se sont formidablement améliorées. Il y a un niveau de confort bien plus élevé, et il y a une surface par habitant bien plus élevée. Alors, simultanément, ça se traduit par des beaucoup plus grandes difficultés pour certaines catégories de personnes, assez réduites, qui, elles, ont du mal à s'insérer dans le monde du logement, ou pour des zones, des localisations qui, elles, sont stigmatisées. Mais si vous regardez les choses globalement, vous constatez que la situation du logement des Français s'est considérablement améliorée dans les 30 dernières années.
Y a-t-il des politiques du logement de droite et des politiques du logement de gauche ? Pourquoi la propriété est-elle globalement plus valorisée à droite ?
Bon, alors, je crois que là aussi, il y a eu une évolution économique. Traditionnellement, la propriété était valorisée parce que c'est l'indépendance, on se prend soi-même en charge, on ne repousse pas. Bon, puis c'est un thème assez évident. Bon, et il y avait une opposition assez classique entre la droite et la gauche sur l'accession à la propriété. Au fond, on se souvient du programme de Giscard d'Estaing, qui était un des premiers à mettre en
il y a quelques années.
L'accession à la propriété, à cette époque, la gauche favorisait plus le locatif. Si vous prenez les choses aujourd'hui, et si vous les prenez objectivement, c'est-à-dire avec les produits qui ont été mis en place, vous verrez que c'est affaire de nuance. La droite dit, on veut une France de propriétaires, et la gauche dit, il faut donner les moyens aux plus modestes qui le souhaitent, si c'est possible, de devenir propriétaires. Et finalement, les produits financiers sont à peu près les mêmes. Il y a des nuances. Là où il y aura une différence beaucoup plus forte, et c'est ce que vous évoquez, c'est sur les politiques urbaines.
Isabelle Couton, est-ce que, je demandais à Bernard Vambre s'il y avait des politiques de droite et des politiques de gauche, mais est-ce que l'évolution d'un quartier à l'autre fait bouger les gens sur l'échiquier politique ?
Ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'aux dernières élections, ces quartiers pavillonnaires ont effectivement fait partie
très fortement voté pour Nicolas Sarkozy.
Après, dans ces quartiers, est-ce que ça correspond forcément à ces enfants de cité ? C'est pas forcément si net, parce qu'il y a tout un ensemble de trajectoires qui amènent là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'abstention au cours des années 80, elle a augmenté dans les zones pavillonnaires de propriétaires. Donc ça on le voyait. Nous, dans ce quartier-là, il y a eu aussi un très fort vote pour le Front National tout au long des années 80-90. Donc là aussi, et plutôt qu'ailleurs, et puis il y a un vote qui a atteint 25%. Mais par contre, les années 60-70, il y avait un basculement droite-gauche. C'était pas clairement un quartier de droite. Souvent, il y a un vote. Et en plus, souvent, le vote au moment des élections nationales et au moment des élections locales s'inverse. Donc c'est des quartiers qui sont difficiles à classer politiquement. Et ça va pas de soi que l'accès à la propriété dans ces milieux-là entraîne forcément vers un vote de droite.
Bernard Vambre, vous voulez ajouter...
Oui, donc pour moi, c'est un rôle essentiel qui se traduit dans les politiques de logement des collectivités locales. Au fond, si on prend des élus de droite qui ne sont pas très assurés dans des communes qui risquent de bouger, eh bien, il sera pratiquement impossible d'arriver à construire des logements sociaux parce que ça risque d'amener des gens de gauche. Et si vous voyez certaines mairie communiste de la banlieue parisienne, il était impossible de construire des programmes en accession parce que, au fur et à mesure que la population s'embourgeoisait, elle basculait. Alors, ce qu'on peut dire, pour revenir quand même là-dessus, c'est qu'à l'époque de Giscard d'Estaing, certains disaient qu'on pensait qu'en faisant les gens devenir propriétaires, on ferait avec des électeurs de gauche, des électeurs de droite. Et puis qu'on s'est aperçu finalement qu'on faisait avec des électeurs communistes, des électeurs socialistes. Et au fond, c'est probablement ce qui a un peu fait évoluer les choses.
Justement, il y a eu une alternance politique. Et pour finir, je vous l'avais dit, je vous propose d'aller dans la petite commune de Bouffémont. C'est dans l'Oise, c'est 6000 habitants. C'est un des rares programmes de maison à 15 euros par jour. Alors je vous rappelle, hein, c'est un projet phare médiatisé dans les dispositifs d'accession à la propriété pour les foyers modestes. Alors c'est pas le premier, il y a eu la maison à 100 000 euros tout court, maintenant il y a la maison à 15 euros par jour. Et Claude Robert est au micro d'Aline Leclerc, il est le maire, hein, il est de gauche, il vient de remplacer un maire de droite, il hérite du projet de maison à 15 euros par jour, et autant dire qu'il s'en serait plutôt bien passé.
La maison à 15 euros par jour, c'est du marketing pour moi, c'est un effet d'annonce. Parce que ça dépend combien de temps. Et là, on est sur des durées qui tournent autour de 40, 45 ans, voire plus.
C'est-à-dire payer 15 euros par jour, mais pendant 40 ans.
À peu près, puisque les 25 premières années, vous payez 15 euros par jour, donc environ 450 euros par mois, uniquement la maison. Mais vous n'êtes pas propriétaire du terrain, en fait.
Comment ça se passe, en fait ? Maison à 15 euros, donc on parle des propriétaires, mais en fait, la commune se doit d'être partie prenante du projet.
Alors ça, c'était la nouveauté de la loi Boutin, c'est-à-dire que la collectivité verse une subvention de 5 000 euros à chacun des bénéficiaires d'une maison, ce qui pose aussi un problème de justice sociale à l'intérieur d'une commune.
Donner 5 000 euros à une famille plutôt qu'à une autre ?
Exactement. Sur quels critères, quels choix ? Enfin, nous, en tout cas, on se la pose, la question de savoir si la priorité n'est pas de fournir un logement à tout le monde, plutôt que de donner des subventions à quelques-uns, même si ce sont des gens qui, effectivement, n'ont pas énormément de revenus. Ce projet a été initié par mon prédécesseur, mais ça, c'était pas vraiment le problème. Sauf que le financement des 5 000 euros de subventions par famille n'était pas prévu. Donc la première des choses qu'il a fallu faire, c'est faire une modification budgétaire pour inclure cette subvention à chaque famille. Alors, les autres difficultés, c'est ensuite le problème de la TVA. Pour la construction d'une maison, l'acquéreur ne va payer au bout du compte que 5,5% de TVA, alors que dans d'autres cas de figure, il paye 19,6%. Alors, avec un bémol quand même, qui fait que l'acquéreur doit d'abord avancer la TVA à 19,6%, et ce n'est qu'à la fin de la construction que l'État remboursera la différence entre les 19,6 et le 5,5 à l'acquéreur. Quand vous êtes en face de familles qui n'ont pas les gros moyens, ben elles n'avaient plus d'épargne suffisante.
Qui dit région parisienne dit un terrain plutôt cher. Est-ce que ça, ça n'a pas posé problème aussi?
Comme il faut 300 mètres carrés minimum, ça veut dire qu'on est à 75-80 000 euros le prix du terrain. Dans le cas qui nous occupe à Bouffémont, le prix du terrain a été ramené à 35 000 euros. Donc on pourrait même imaginer que l'aide de la collectivité territoriale n'a pas été que de 5 000 euros, mais elle a été de 35 000 euros sur le terrain, plus 5 000 euros de subvention. Alors vous voyez que c'est véritablement un processus qu'on ne peut pas généraliser, et donc il est clair qu'on n'en fera pas d'autre.
Bernard Worms, est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours, médiatiquement, on sait, hein, ces maisons, il y en a, elles sont annoncées 20 000, mais c'est un objectif illusoire, il y en a très très peu, c'est vraiment en unité que ça se compte pratiquement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours, dans l'opinion publique, comme ça, un projet médiatique pour essayer de montrer que c'est possible?
Ben écoutez, je vais essayer de vous faire trois réponses. La première, c'est que ces dispositifs sont tout à fait nouveaux. Donc, d'ailleurs, ils vont être probablement modifiés dans la loi qui est votée. Donc, on ne peut pas juger actuellement de la façon dont ils s'appliquent. Le second élément, c'est que les aides nationales pour aider à l'accession à la propriété sont relativement aveugles. Donc, l'idée a été d'associer les collectivités pour qu'elles puissent aider plus à un endroit ou un type de population. Et puis la dernière chose, c'est qu'effectivement c'est médiatisé, mais comme tous les enjeux qui sont importants aux yeux du public sont actuellement extrêmement médiatisés. On ne voit pas comment l'accession à la propriété pourrait ne pas l'être. Bon, maintenant, pour une famille, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut étudier ça posément, et ben, c'est un peu le boulot des adhiles que d'aider les gens à le faire. Alors, ce que disait le maire, c'est que c'est des dispositifs qui sont tournés sur un petit nombre de gens, et ça lui paraissait éventuellement injuste. Mais effectivement, les gens qui peuvent bénéficier de ces aides, globalement, on les appelle le système du pass foncier. Oui. Bon, là, elles sont très avantageuses pour eux.
Est-ce qu'on va, vous croyez, dans la société, comme il y a de nombreux emplois aidés, est-ce qu'il va y avoir un droit commun du logement et un logement aidé?
Ben, il y a toujours eu, en France, hein, c'est pas le cas dans tous les pays, dans tous les pays où on encourage l'accession à la propriété, on s'efforce de faire en sorte que les gens puissent emprunter. Et pour ça, s'ils présentent un risque particulier, l'État garantit d'une certaine façon ce risque. Bon. Puis un deuxième élément, c'est effectivement de les aider en injectant du pouvoir d'achat. Ce sont des dispositifs qui existent là, qui n'existent pas, enfin dans un certain nombre de pays. Tout le problème, c'est le ciblage. Est-ce qu'on va aider les catégories les plus modestes? Est-ce qu'on va aider les catégories larges? En France, en matière d'aide publique, on a l'habitude d'aider des catégories assez larges, parfois avec des aides assez faibles. Si je prends dans tous les domaines de l'aide sociale, si je prends la Grande-Bretagne, on aide des catégories très étroites avec
plus
des aides très fortes.
Isabelle Coutan, pour finir, est-ce qu'on est élevé, entre guillemets, différemment quand on grandit dans une famille de propriétaires que dans une famille de locataires?
Le rapport à l'avenir n'est pas le même. Enfin, ce qu'ont en commun, et ce qu'avaient en tout cas jusqu'ici en commun tous ces propriétaires, c'est d'avoir quand même un certain sentiment de maîtrise sur leur trajectoire et sur leur vie. Ce qui fait d'ailleurs que ce sont des quartiers qui votent beaucoup. Ce sont des quartiers, enfin voilà, si, c'est difficile de les classer droite-gauche, en tout cas on l'a fait depuis les années 60. Par contre, ils ont en commun d'avoir un comportement civique marqué au sens où ils votent. Et on a d'autant plus de chances de voter qu'on pense qu'on a prise aussi sur l'avenir. Donc ça se transmet. Je pense qu'effectivement, si on grandit dans une famille qui ne se projette pas, qui ne peut pas se projeter, c'est pas la même chose que de grandir dans une famille où c'est possible.
Donc on en revient à cette invention d'un avenir social.
Voilà, mais après, je pense qu'effectivement, selon les cas, il faut différencier. Il y a des quartiers, effectivement, dans la même commune, il y avait des quartiers de petits propriétaires qui étaient des quartiers très dégradés, où les gens étaient surendettés, où les voiries n'étaient plus entretenues. Alors voilà, grandir dans ce genre de quartier de propriétaires-là, c'est encore autre chose et c'est encore différent que de grandir dans celui qu'on a étudié.
Bernard Worms, Isabelle Coutan, merci de votre présence aujourd'hui dans le studio de Microscopie. Alors je renvoie les auditeurs vers le site de l'ANIL, hein, c'est www.anil.org. Il y a une foultitude de documents sur tous les sujets. Et puis bien sûr, je vous recommande la lecture de La France des petits moyens aux éditions de la Découverte, une monographie d'un quartier populaire. C'est assez intéressant, assez étonnant comme bouquin. Merci à tous de votre attention. Nous attendons évidemment vos remarques, vos réactions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Quand vous fondez une famille, vous avez des enfants, c'est super, c'est inimaginable. Et après, être propriétaire, alors là, c'est, je crois, la finition d'une famille.
Ça a toujours été un rêve d'être propriétaire, d'avoir ma maison pour mes enfants. Et c'est à nous, quoi.